Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
This is Europe number one.
Vous qui écoutez Europe numéro 1 actuellement.
Vous êtes formidable.
Europe 1. 1955-2025.
Et maintenant, les barricades sont en feu.
70 ans d'Europe 1.
Alors si vous pouviez rire...
Julien Pichenet.
Bienvenue dans 70 ans d'Europe 1, l'émission qui revisite chaque nuit 70 ans d'histoire à l'occasion de notre anniversaire. C'est parti pour une nouvelle semaine, semaine durant laquelle nous partirons sur la route du Tour de France, durant laquelle nous revivrons la victoire des Bleus à l'Euro 84 et en Coupe du Monde. Mais en attendant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au feuilleton radiophonique du début des années 60. Vous voyez, parce que c'est au tout début des années 60 qu'Europe 1 a commencé à démontrer son savoir-faire en matière de feuilleton et de récit. À cette époque, les feuilletons sont nombreux dans la grille des programmes. Ils sont assez faciles à caser dans une grille puisqu'ils durent en général entre 15 et 20 minutes. Il y a, au début des années 60, les enquêtes du fantôme. Il y a Hélène et son destin, Lettres d'amour, Les mystères de Paris, Bonjour voisin, Secret d'État ou encore Le siffleur, superbe feuilleton policier qui avait fait le bonheur des millions d'auditeurs lors de la saison 62-63. Depuis quelques semaines d'ailleurs, nous vous proposons chaque dimanche de retrouver un épisode du siffleur en podcast à retrouver dans notre collection Au cœur du crime. Vous êtes d'ailleurs très nombreux chaque semaine à écouter ou à réécouter Le siffleur dont nous allons vous faire écouter un épisode tout de suite dans 70 ans d'Europe 1. Voici Cellule numéro 13. L'histoire d'un prisonnier qui, à sa sortie de cellule, est attendu à la sortie par une femme qui fait partie d'une mystérieuse association. Vous reconnaîtrez peut-être quelques voix célèbres dans la distribution. Pierre Vernet, qui nous a quitté d'ailleurs l'an dernier, ou encore Jean Rougerie, qui n'était pas encore l'un des acteurs fétiches de Bertrand Blier. Voici Le siffleur sur Europe 1.
Vous écoutez Le siffleur. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Paris, la prison de la santé. Dans la cellule numéro 13, le vieux Pépé tire 15 ans de réclusion. Il fait office de tailleur. Sa table de travail est dans un coin et dans un autre, il y a son lit. Il vit seul et travaille seul. Pépé n'a de contact avec ses co-détenus qu'à la promenade. Ou quand ils viennent laver le sol de sa cellule. Comme ces deux-là, Pierrot et Cavaillon.
Alors dis, Pépé, ce costume que t'es en train de repenser, j'avais exactement le même en entrant ici il y a 5 ans.
Pardi, c'est le tien.
Hein? Sans blague.
Bah, c'est bien demain que t'es libéré.
Et demain, oui, tu penses?
Eh ben, c'est toujours moi qui remets en état les costumes de ceux qui s'en vont. Alors aujourd'hui, je m'occupe du tien.
Et c'est des brumelles que l'administration veut rendre à la vie civile.
Bah, l'administration, pour nous, c'était une mère.
Viens,
hey.
Tu sais que moi, je suis au courant de tout ce qui se passe dehors.
Ah oui, sans blague.
Alors je peux te dire que demain matin, quand tu sortiras, tu trouveras devant la porte, sur le trottoir d'en face, une dame qui t'attendra.
Et qui m'attendra, moi, Pierrot?
Ouais.
Et pourquoi faire, m'attendra?
Elle représente une œuvre qui s'occupe des prisonniers libérés.
Ah oui,
mais oui. Oh, une œuvre, tout ce qu'il y a de chouette. Je te montrerai sa carte officielle. Alors, un conseil, laisse-toi faire.
Pense sur moi.
Ah, il paraît que ces gens-là rendent des services que c'est pas croyable.
Eh ben, merci pour le tuyau, on en profitera. Mais toi aussi, Cavaillon, hein?
Ah ben, moi, je serai libéré que jeudi prochain.
Eh ben, t'en profiteras à partir de jeudi.
Ben alors, puisqu'on te le dit, oh, fais gaffe, là, le gardien.
Tu as de la veine. Pour ta sortie, le soleil s'est mis de la fête.
Ouais, je vois ça.
Allez, plantons, laissez-le passer. Au revoir, toi.
Au revoir. Dites pas ça, chef, ça porte malheur. Hein.
Des fois que tu reviennes.
Non, sans blague.
Ça s'est vu.
Ah, plus de murs et plus de plafonds. C'est ça, la santé. La vraie.
Bonjour. Hein? Vous êtes Pierre Quilleboeuf?
Oui.
Je représente l'œuvre de la main tendue. Je suis ici pour aider les prisonniers libérés.
Ah oui, le vieux Pépé m'a parlé de vous, oui.
Si vous voulez voir ma carte, tenez, la voilà. Non.
Très bien, oui.
Là, j'ai un taxi, je vous emmène.
Où ça?
Vous achetez un costume neuf.
Quoi?
Oui, on dirait que vous avez beaucoup maigri.
Ah oui, hein, j'ai l'air d'un drapeau qui flotte.
Pour repartir du bon pied, un homme dans votre cas doit être impeccablement habillé.
Ah bah, je dis pas, mais vous savez, je viens de toucher mon pécule. J'ai pas de quoi faire des folies.
Oh, ne vous inquiétez pas, c'est notre œuvre qui vous offre le costume.
Oh bon, alors si c'est comme ça...
Allez, montez.
Monsieur se plaît dans son nouveau costume?
Ah bah dites donc, c'est difficile. J'ai l'air d'un président du conseil.
C'est ce qu'il faut.
Je vais mettre votre vieux complet dans un carton.
Oui, s'il vous plaît.
Je reviens tout de suite.
Et maintenant, monsieur Quilleboeuf, vous pouvez vous sauver.
Ah, mais il faut que j'attende mon vieux costume.
Je vais vous demander de me le laisser.
Mais pourquoi faire?
Pour mes pauvres.
Pour vos... Ah bon, alors d'accord, c'est bien le moins. Bon. Eh bien, alors, je vous quitte. Hein.
Au revoir.
Au fait, Pépé m'a dit qu'au cas où j'aurais besoin d'un petit service, on va quoi. Votre œuvre, à l'occasion, pourrait me donner un coup de main. Hein? Alors, à quelle adresse il faudrait...
Écoutez, téléphonez-moi à Trinité 4374.
Attendez, Trinité 4374.
Oui.
Bon, très bien, je n'oublierai pas. Et qui je demande?
Eh bien, mademoiselle Gauthier.
Oui. Eh bien, entendu. Au revoir, mademoiselle. Et merci, hein.
Au revoir.
Au revoir.
Curieuse, cette demoiselle Gauthier, n'est-ce pas, Pierrot? Il y a chez elle quelque chose d'inexplicable. Son habillement, peut-être. Elle ne ressemble pas du tout à une dame des bonnes œuvres. Ce pull vert jade, cette jupe un peu trop collante. Et puis, elle ne t'a rien demandé sur ton passé. Et elle n'a pas rempli de fiches. Ces gens-là, ça remplit toujours des fiches. Et puis, elle a hésité avant de te donner son nom. Est-ce bien le sien? Et son numéro de téléphone? Un numéro bidon? Tu veux en avoir le cœur net, hein, Pierrot? C'est ça. Cache-toi dans une porte cochère et guette-la, cette mystérieuse mademoiselle Gauthier.
La voilà qui sort du magasin avec mon vieux complet dans un carton. Elle prend la petite rue à droite. Eh ben tant pis, je la suis. Comme Sherlock Holmes. Quoi? Elle s'arrête devant une boutique, elle sort une clé de son sac. Et elle entre comme chez elle. Mais qu'est-ce que c'est que cette boutique? Antiquité, curiosité, autographe. Mais qu'est-ce qu'elle va fabriquer au fond de ce magasin? Oh, ça alors. J'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête, moi. J'y vais. Rebonjour.
Vous, ici?
M'attendiez pas, hein?
Vous m'avez suivi?
On peut rien vous cacher. Ainsi, vous vous occupez de bonnes œuvres et vous tenez un magasin de curiosités.
Ce n'est pas incompatible.
Non, non, mais il y a quelque chose de plus surprenant.
Ah oui, quoi donc?
Ça va, hein. Prenez pas pour un cave. Hein. Mais vous êtes même pas aperçu que je vous observais à travers la vitre?
Et alors?
Je vous ai vu sortir du carton mon vieux veston. Vous avez décousu la doublure et vous en avez sorti un papier. Alors, je veux savoir ce que c'est que ce papier.
Non.
Allez vite, montrez-moi ça.
Non.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une lettre? Ah bah dites donc, elle est pas d'aujourd'hui. Signé Napoléon? Oh ben ça alors, en sortant de prison, j'ai trimballé dans la doublure de mon veston une lettre de Napoléon, moi?
Oui.
Ben j'aimerais savoir ce que ça signifie, hein?
C'est un secret.
Un secret, sans blague? Si vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça, ma petite, hein, là vous vous trompez, moi je vous le dis.
Oh, écoutez, pour le mal que ça vous a donné...
Oui, ben la question n'est pas là, hein. J'aime pas qu'on se serve de moi sans qu'on me mette au courant. S'il y a une combine, je vais être dans le coup et que ça me rapporte.
Écoutez, vous avez un complet neuf, ça ne vous suffit pas?
Ah ben c'est pas vous, ça c'est l'œuvre, non?
Oh.
Ah, parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Le fric, c'est vous toute seule qui l'avez sorti ?
Dame. Écoutez, vous m'avez rendu service, je vous ai payé. J'étais régulière, hein ? Bon, alors maintenant, laissez-moi.
Elle, doucement, mignonne, hein, doucement. Moi, je suis curieux de nature et je tiens absolument à savoir pourquoi j'ai fait le facteur avec une lettre du petit caporal. Hein ? Ou alors je préviens la police.
Tenez-vous tranquille.
Bah, alors parlez, ou dans 5 minutes, les flics seront là. Alors ?
Vous savez pourquoi le vieux Pépé a été condamné à 15 ans de réclusion ?
Il fabriquait des faux billets de banque, hein ?
Oui. Hein ? Un artiste merveilleux. Alors comme en prison, il s'ennuyait. Grâce à certaines complicités, je lui ai fait parvenir de quoi copier des documents historiques.
Donc, si je comprends bien, cette lettre de Napoléon à Joséphine est fausse.
Oui.
C'est Pépé qui l'a faite et il vous l'a envoyée dans ma doublure de veston.
Voilà.
Et vous avez un client pour cette lettre-là ?
Oh, naturellement.
Et combien vous allez toucher ?
Ça, je ne sais pas encore.
Ouh, mais dites donc, je vois que vous en avez plein un tiroir, là. Vous permettez ?
Mais dites donc, voulez-vous laisser ça ?
Eh. Oh, et puis, il y a le prix derrière. Non, c'est bien organisé. 300 000 francs. Lettre de Marie-Louise à Napoléon.
Oui, mais celle-là est authentique.
Lettre de Napoléon à Talleyrand, 90 000. Oui, ben alors celle-là est fausse. Hein?
Oui.
Mais pourquoi vous ne la vendez pas le même prix si elle était vraie ?
Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer très cher. Mais croyez-moi, quand je trouve un Richard, alors ça, je le rate pas.
Dites-moi, notre lettre à nous, vous croyez que vous pourrez la vendre 300 000 ?
Non. Malheureusement, pas plus de 80.
Ah, tant pis. Mais enfin, il n'y a pas à dire, c'est pas mal votre truc, hein ?
Oui, mais malheureusement, c'est terminé. Pépé m'a fait dire qu'il ne pouvait pas continuer. Il y a trop de risques.
Eh, c'est dommage, moi, ça m'aurait intéressé.
Il faut se faire une raison.
Eh oui.
Eh bien, sauvez-vous.
Ben oui, je me sauve.
Eh ben, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Allons, Pierrot. Ne pense plus à cette fille. Elle avait une combine, tu en as profité. Rideau. Quoi ? Ah oui, c'est exact. Elle a de beaux yeux et elle est bien balancée. Mais, mon pauvre ami, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de toi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu lui apporteras des fleurs demain. Et 24 heures plus tard, voilà Pierrot, un bouquet de tulipes à la main, qui entre sur la pointe des pieds dans la boutique pour faire une surprise à la belle Mademoiselle Gauthier. Elle est au téléphone.
Allô, j'écoute ? Ah, Monsieur de Jonzac. Bonjour, Monsieur de Jonzac. De Mirabeau ? Non. Non, en ce moment, je n'ai rien. Mais jeudi après-midi, je vais avoir une lettre de Napoléon à Joséphine absolument remarquable. Oui, bouleversante. Oh, ce serait la plus belle fleur de votre collection. 400 000. Oh, si vous saviez le mal que ça représente pour dénicher une pièce comme celle-là. Oui, pensez qu'elle m'arrive de New York. Puis moi-même, je suis obligée de la payer très cher. Oh, d'accord. Sitôt que je l'ai, je vous téléphone. Et entendu. Au revoir, Monsieur de Jonzac.
Pierrot en a assez entendu. Et il fiche le camp avec ses fleurs, puisque Mademoiselle Gauthier n'est qu'une menteuse. Sa combine n'est pas du tout terminée. Loin de là. Jeudi. Mais c'est Cavaillon qui sort de prison. C'est donc lui qui va ramener dans sa doublure de veston un autre exemplaire de la lettre de Napoléon, un autre exemplaire fabriqué par Pépé. Eh bien, puisque c'est comme ça, la combine... Pierrot va en profiter tout seul. Et le jeudi matin, il est là, dans un taxi, à guetter Cavaillon qui va sortir de prison.
Hey, Cavaillon !
Oh, Pierrot !
Monte dans le taxi avec moi, vite !
Mais
je... Allez, allez, en vitesse, je t'expliquerai.
J'ai vu une dame qui m'attendait sur le trottoir d'en face, dit.
Ben, c'est pas la dame de l'œuvre dont t'as parlé Pépé. Elle est malade. Elle m'a demandé de la remplacer.
Sans blague.
Oui, oui. Puis elle m'a donné l'argent pour que je t'emmène dans un grand magasin. Oui, hein? On te paye un costume neuf.
Et celui-là me va très bien.
Ah, tu flottes dedans, on dirait un drapeau, alors.
Je trouve pas, moi.
Écoute, mon vieux, pour repartir du bon pied, un homme dans ton cas doit être impeccablement habillé. Alors, laisse-moi faire, hein.
Ah bah, si tu y tiens, dis.
Voyons. Jean-Zac. J-N-J-I. J-O. Voilà. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ah, voilà. Rue de la Faisanderie. Oui, ben, il n'y en a qu'un sur l'annuaire du téléphone. Ça peut être que celui-là. Trocadéro 37-43. Ben, essayons toujours. Trocadéro. 43. Allô, Trocadéro 37-43.
Oui.
Je voudrais parler à monsieur de Jonzac, s'il vous plaît.
C'est moi.
Ah, bonjour monsieur de Jonzac, je suis l'associé de mademoiselle Gauthier, vous savez, la marchande de curiosités de la rue de Seine. Et elle me charge de vous dire que nous avons enfin la fameuse lettre de Napoléon dont elle vous a parlé l'autre jour au téléphone.
Ah oui ? Oh, j'ai hâte de la voir.
Je comprends ça, monsieur. Écoutez, si vous voulez, je vous la porte tout de suite et l'affaire est réglée en 5 minutes.
Ah non, non, oh, surtout, ne venez pas ici, ah à bon? Cause de ma femme. Je vous expliquerai. Oui. Si elle vous voyait ici, elle vous mettrait à la porte. Elle trouve que je dépense trop d'argent pour ma collection.
Et pourtant, Dieu sait si c'est un bon placement.
C'est ce que je me tue à lui dire. Non, écoutez, je passerai à votre magasin.
Ah, écoutez, monsieur de Jonzac, en ce moment, on a les peintres. Vous savez, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Je ne pourrais pas vous voir dans un café.
Alors, venez près de chez moi. Il y en a un bien tranquille au coin de la rue de la Faisanderie et de la rue du Frénois. Dans la salle du fond, à 5 heures. Demain, c'est possible ?
Bien, à 5 heures, entendu. À 5 heures, dans la salle du fond. Au revoir, monsieur. À demain.
À demain.
Bonsoir, monsieur Kibaf.
Tiens, mademoiselle Gauthier.
Eh oui.
Asseyez-vous.
C'est moi. Alors, c'est comme ça qu'on embarque le nommé Cavaillon à mon nez et à ma barbe ?
Moi ?
Oh. Oh, si vous croyez que je ne vous ai pas vu hier matin caché dans votre taxi. Vous m'avez eu de vitesse. Bien joué. Et je suppose que vous avez payé un beau costume à votre copain ? Et que vous avez retiré de la doublure de son vieux veston une certaine lettre de Napoléon à Joséphine. Non ?
Dites-moi, comment avez-vous su que j'étais ici, dans ce bistrot ?
Oh, parce que monsieur de Jonzac est très bien élevé. Il m'a téléphoné ce matin pour nous prier de l'excuser. Oui, il sera un petit peu en retard. Alors je l'ai fait parler. Et bien entendu, j'ai tout compris.
Vous lui avez dit que je n'étais pas votre associé ?
Oh. Voyons, il ne faut jamais rien dire aux clients. D'autant plus que, dans cette affaire, je m'estime pour le moins, en effet, votre associé.
Ah bon ? Enfin, on en reparlera.
L'essentiel, c'est d'abord de faire l'affaire, n'est-ce pas ? Alors, montrez-moi cette lettre.
Tenez, la voilà.
Il n'y a pas de doute. Elle est très belle. Si toutes les femmes pouvaient en recevoir de pareilles. Oh, attention, voilà le client.
Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir, monsieur de Jonzac.
Bonsoir.
Je vous présente monsieur... Monsieur Davis.
Ah, enchanté. Monsieur est votre associé, je suppose.
Oui, oui, c'est moi qui vous ai téléphoné. Oui. Vous savez, c'est moi qui l'ai déniché, cette lettre.
Bravo. Alors, montrez-la vite.
Tenez, la voici.
Oh. Oh. Charmant, délicieux. Oh, ce Napoléon, en voilà un qui savait parler aux femmes.
N'est-ce pas ?
Et cette lettre-là est authentique, aucun doute là-dessus.
Oh, vous savez bien que si j'avais eu la moindre hésitation, je ne vous en aurais même pas parlé.
Ah, je sais. Je vais vous donner un chèque.
Oui, si.
Mais vous allez être gentil. Faites-moi une petite diminution.
Oh, je suis navrée, monsieur de Jonzac, c'est impossible. Le musée de la Malmaison m'en a offert 500 000.
Bon, alors, disons 400.
Oui.
À l'ordre de mademoiselle Gauthier.
Oui.
Je le barre ?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà. Oh, Vous aviez raison, ce sera la plus belle pièce de ma collection. Je suis ravi.
Nous également.
Je me sauve. Ma femme donne un thé. Alors, si j'étais en retard, elle me demanderait des explications. Et j'aime autant qu'elle ne sache pas d'où je viens. Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur Jean-Zac.
Dites-moi, sur ces 400 billets, vous m'en filez combien?
Eh bien, je vous rembourse le costume neuf à Cavaillon.
Oui.
Vous n'avez rien à me demander de plus?
Ah, ouais, mais pardon, pardon.
Quoi? Vous avez voulu me doubler, je me suis laissé faire. Allons, soyez beaux joueurs. Tenez, je veux bien vous donner 25 billets. Mais vraiment, vous ne les méritez pas.
Bon, d'accord. Hein. Mais pour la suite, on en reparlera. Vous savez, j'ai le sens des affaires, moi. Je pourrais vous rendre service.
Vraiment?
Ouais.
Excusez-moi. Inspecteur Pietri. Vous vous appelez bien Pierre Quillebeuf?
Oui, c'est ça, oui.
Mais venez une seconde, j'ai deux mots à vous dire.
Non, excusez-moi, monsieur.
Je vous en prie.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Vous avez été libéré sous condition, et on vous surveille. Nous n'aimons pas que vous ayez des contacts avec vos anciens camarades de prison.
Mais je comprends pas.
Hier matin, vous avez attendu la sortie d'un nommé Cavaillon, et vous vous êtes baladé avec lui. Nous n'aimons pas ça.
Ah bon?
Premier et dernier avertissement.
Bon, 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 vous en faites pas, hein, je laisse tomber. Mais...
Ah, monsieur Davis, voyez comme je suis étourdi. J'ai bien emporté la lettre que vous venez de me vendre, mais j'ai oublié ma serviette.
Oh, mais oui, c'est vrai. Tenez, la voilà.
Ah, merci, je me sauve. Ah, dites donc, monsieur Davis, si jamais vous me trouvez encore des lettres de Napoléon, n'hésitez pas, un coup de téléphone et je viens.
Une seconde, monsieur, vous permettez?
Ah.
Monsieur Davis vient de vous vendre une lettre de Napoléon, dites-vous?
Oui.
Police. Voudriez-vous me la montrer, je vous prie?
Ben, la voici.
Et vous vous imaginez que cette lettre est authentique?
Monsieur Davis, dites-vous même à monsieur.
Primo, il n'y a pas de monsieur Davis. Il s'appelle Quillebeuf.
Et alors?
Il sort de prison. Et il est resté en contact avec un détenu de la santé qui est faussaire. Un nommé Pépé.
Quoi? Vous croyez que cette lettre est un faux? Ben, je l'ai payé 400 000 francs.
Ben, j'arrive à temps.
Mais inspecteur, cette lettre est absolument authentique, je vous le jure.
Bon, ça va, en effet, pourquoi leur raconter des boniments, hein? Ils ont découvert la combine de Pépé, ils savent bien que cette lettre n'est pas plus vraie que les autres. Bon, allez, inspecteur, on vous suit.
Oh, mais espèce d'idiot, vous ne pouvez pas la fermer? Cette lettre qu'on vient de vendre est absolument authentique. C'est l'original qui a servi de modèle à Pépé. Il fallait bien qu'il me la renvoie.
Ben si je comprends bien, tu as perdu une belle occasion de ta terre. Ben, dans ces conditions, mademoiselle... Je vais vous demander de me suivre, vous aussi.
Moi?
Ah, dame. À cause de ces imitations, qui ont été si bien fabriquées dans la cellule numéro 13.
Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.
Et après Le Siffleur, en voici un autre de Siffleur, Otis Redding, Dog of the Babe sur Europe 1.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like things the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
Otis Redding sur Europe 1 dans 70 ans d'Europe 1 jusqu'à 5h. Émission spéciale feuilleton radiophonique du début des années 60 cette nuit. Entre 1961 et 1963, Europe 1 propose une fois par semaine, en l'occurrence le vendredi soir, de retrouver les aventures d'Hubert Bonisseur de la Batte, plus connu dans le milieu de l'espionnage sous le sigle d'OSS 117. C'est l'auteur du personnage lui-même, Jean Bruce, qui présentait chaque épisode à l'antenne, épisode écrit par Louis Rognoni, l'un des premiers membres de la rédaction d'Europe 1 à sa création en 1955, avant de collaborer avec Pierre Dac pour son journal L'Oreille en coin et de devenir scénariste donc pour la radio et la télévision. Voici un épisode d'OSS 117 avec Jean Bruce à la présentation et Jacques-Henri Duval dans le rôle de l'agent secret, épisode diffusé le 2 mars 1962.
OSS 117 raconte.
Chers amis, bonsoir. C'est Jean Bruce qui vous parle. Récemment, j'ai eu le privilège de passer plusieurs soirées en compagnie de mon vieil ami Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Je dis privilège car le fait est assez rare. Certes, nous nous connaissons depuis de longues années, mais généralement, nos rencontres ne durent guère plus que le temps de boire un double bourbon, que ce soit dans un bar de Hong Kong ou dans une boîte de Berlin, par exemple. Hubert Bonisseur de la Batte, vous le savez, est un homme particulièrement occupé. Et puis, au cours de ces brèves rencontres, il était le plus souvent accompagné de créatures de rêve, visiblement impatientes de se retrouver seules avec lui. Or, ces jours-ci, il a exigé que je ne précise pas davantage pour des raisons de sécurité, ces jours-ci, Hubert est venu passer plusieurs soirées à la maison. Nous avons bavardé, tout notre soûl, j'ai mis mon magnétophone en marche et ce sont ces conversations que je me propose de vous faire entendre ici chaque vendredi.
Ainsi, mon cher Bruce, vous avez fait une conférence sur l'espionnage ?
Une causerie, mon cher Hubert. Une simple causerie. Et non pas sur l'espionnage, mais sur le roman d'espionnage. Il y a une nuance.
C'est bien qu'en ce domaine, plus qu'en aucun autre, la réalité dépassera toujours la fiction. J'ai sous les yeux le texte de cette causerie. Et j'y relève cette phrase à propos des qualités de l'agent secret idéal. Il doit être discret, aimer vivre dans l'anonymat, et savoir se taire.
Cette phrase est extraite d'un portrait psychologique établi par les services secrets américains.
Qui vous dit le contraire ?
Alors ?
Alors pourquoi avoir branché ce magnétophone ? Serais-je par hasard totalement dénué de cette qualité de discrétion qu'on exige d'un bon agent de renseignement ?
Vous venez de me promettre à l'instant...
Oui, je n'ai qu'une parole. C'était une simple remarque en passant. Et d'ailleurs, qui peut se vanter d'être l'agent de renseignement idéal ? Personne. Alors, posez-moi toutes les questions que vous voudrez et j'y répondrai. Comme je voudrais, naturellement.
Bon. Pourquoi vous appelle-t-on OSS 117 ?
Oh, vieux farceur, comme si vous ne le saviez pas.
Moi, si, évidemment. Mais tous les auditeurs dans l'écoute ne le savent peut-être pas.
Tous les auditeurs, c'est charmant. Vous comptez diffuser publiquement cet enregistrement ?
Ben oui. À dire franchement les choses, oui.
De mieux en mieux, touchant le chapitre de la discrétion. Oh, puis après tout, pourquoi ne pas répondre ? C'est pas un secret d'État. On m'appelle OSS 117, tout simplement parce que je suis le 117e agent entré à l'OSS. L'Office of Strategic Service. C'est un numéro matricule, si vous préférez. Après la guerre, l'OSS a disparu et a été remplacé par la CIA, la Central Intelligence Agency, dirigée ces dernières années par M. Alan Dulles, le frère du secrétaire d'État Foster Dulles. Après quelques opérations malheureuses, à Cuba, peut-être ailleurs, le président Kennedy l'a remplacé. Ah, quant à moi, chaque fois que je le peux, je conserve cette appellation OSS 117, peut-être par superstition. Jusqu'à présent, ça n'a pas trop mal marché.
Mm-hmm. Et quelle est l'origine de ce nom assez curieux pour un citoyen américain, bonisseur de la base?
Ah non, ici je refuse de répondre.
Je pourrais le faire à votre place.
Non, vous auriez tort. Puisque vous avez l'intention de rendre public cet enregistrement, vous devez ménager à vos auditeurs, comment dites-vous, vous autres romanciers, un certain suspense, c'est ça, un certain suspense. Je ne suis pas romancier, mais il me semble qu'il s'agit d'une précaution élémentaire.
C'est une objection valable.
Vous avez tout le temps d'expliquer par la suite à vos auditeurs qui étaient nos ancêtres, les bonisseurs de la batte. C'est une histoire terriblement édifiante, d'ailleurs. Non, excusez-moi, mais je crois que vous avez pris mon verre.
Oh, excusez-moi. Je vais vous en verser un autre.
Je n'aurais pas l'hypocrisie de refuser. Merci.
Pour l'instant, donc, plus de questions personnelles. Mais continuons de parler boutique, si vous le voulez bien. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il existe deux catégories d'agents de renseignement. Mmh. D'abord, ceux qui vivent en permanence dans un pays, ceux qui disposent d'une couverture, c'est-à-dire d'un travail régulier, et d'une famille, parfois.
C'est ça.
Et puis les autres, les agents action qu'on envoie dans un pays, avec une mission bien définie, dont ne peuvent pas s'acquitter les agents, disons, sédentaires. Mmh. Les agents action, comme vous, par exemple...
Non, il était convenu que nous ne parlerions plus de moi.
Bon, alors parlons des autres.
Mais il ne faut pas croire que leur métier soit de tourpeau non plus. Tenez, je pense en ce moment à Max. Oui, dans ce quartier de New York, tout le monde l'appelait Max. Je sais pour quelle raison d'ailleurs, puisque le nom porté sur la boîte aux lettres indiquait David Hesch, retoucheur photographe. Max avait 52 ans, marié, père de famille, et accessoirement, et ce que les gens ignoraient le plus souvent, colonel dans l'armée rouge.
Mais dites-moi, Hubert, ce colonel photographe me fait irrésistiblement penser au colonel Abel, récemment échangé par les Américains contre Powers, le pilote de l'U2, détenu en Union soviétique.
C'est possible. Toutes les histoires d'espionnage se ressemblent.
C'est certain. J'en suis même de plus en plus certain.
Si vous m'interrompez continuellement, mon vieux, comment voulez-vous que je vous raconte l'histoire de Max?
Allez-y.
Photographe new-yorkais, colonel de l'armée rouge.
Je vous écoute.
Voilà. Max, ce jour-là, était occupé à retoucher les photographies d'un jeune GI boutonneux, aux oreilles décollées. Quand?
Allô, j'écoute. Monsieur Simon, dites-vous. Mais quel numéro demandez-vous? Hudson 8-73-74. Ah non, je regrette, monsieur, c'est une erreur. Ici, c'est Hudson 8-73-75, et non 74. Mais je vous en prie, monsieur.
Max, je vous l'ai déjà dit, avait 52 ans. Et aussi curieux que ça puisse paraître chez un agent de renseignement, il n'aspirait qu'à une chose, la retraite. Il n'attendait que le moment où Moscou, reconnaissant les services rendus, le rappellerait pour le nommer instructeur d'une école d'espionnage. Seulement, ce coup de téléphone était impératif. Il signifiait que toutes affaires cessantes, il devait se mettre en rapport avec Sergueï, le consul.
C'est très grave. Cet après-midi, à 2h, un de nos diplomates qui se rendait aux Nations Unies a oublié son porte-document dans un taxi.
Document important?
Très, très important.
N'est-ce pas plutôt à lui d'essayer de...
Non. Un étourdi ne sera jamais qu'un étourdi. Il faut maintenant que les spécialistes entrent en jeu.
N'avais-je pas raison de prétendre tout à l'heure que toutes les histoires d'espionnage se ressemblent? Une étourderie aussi enfantine arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Évidemment, ni Max ni Sergueï n'ont la moindre idée du parcours suivi par ce porte-document à travers New York. Le diplomate venait à peine de descendre. Quand?
Taxi! 7e avenue, 36e rue.
Il remarqua tout de suite le porte-document, l'ouvrit. Il n'était pas très scrupuleux. Depuis quelque temps, il vivait d'expédients.
Hey.
Le diplomate manquait vraiment de chance. Hans Ashwell, l'homme monté après lui dans le taxi, était un employé congédié des Nations Unies, un ancien traducteur de russe. Quelques minutes lui suffirent pour juger de l'importance de sa découverte. Il en fut effrayé. Il voulut laisser le porte-document là où il l'avait trouvé. Mais le hasard veillait.
Hé, hey, monsieur, vous oubliez ça!
Ah oui, merci. Merci, mon ami, merci.
Et ce jour-là, partout où il voulut abandonner le porte-document, une personne obligeante lui signalait sa négligence.
Merci, monsieur. Merci bien, mademoiselle. Oh, trop aimable, madame. Je vous remercie, monsieur.
Hans, le porte-document toujours sous le bras, retrouva dans le hall du Waldorf Astoria Audrey, une jeune comédienne dont il est amoureux. Tous deux doivent se rendre à un cocktail donné au 12e étage.
Alors Audrey, déjà là? Je suis pas en retard au moins, non?
Non, mais tout juste à l'heure, dépêchons-nous.
Oui.
Tu ne vas pas monter avec ça là-haut? Tu ressembles à un courtier d'assurance.
Bah oui, mais je sais pas trop quoi en faire, moi.
Ah, ces hommes, ce que vous êtes empruntés. Donne.
Non,
Ce n'est pas de la dynamite, je suppose.
Ah non, c'est-à-dire que...
Allons, donne. Je vais le déposer à la consigne de l'hôtel. Moi-même, tout à l'heure, je venais de faire des courses et j'y ai laissé quelques paquets.
Eh ben, comme tu voudras, tiens.
Hans, je voudrais te parler.
Quel sujet, mon chéri?
Un autre sujet, à nous deux, toi et moi.
Oui, alors?
Maman a su, j'ignore comment, que tu avais perdu ta situation aux Nations Unies. Elle s'étonne que tu n'aies pas retrouvé d'autre job depuis. Elle ne trouve pas normal qu'un homme de 30 ans accepte de vivre comme tu le fais. Elle croit que si tu m'aimais vraiment, tu chercherais une situation honorable pour pouvoir m'épouser.
Mais oui, ça c'est l'opinion de ta mère. Peut-on connaître la tienne?
Ce que ma mère pense, je le pense aussi.
Conclusion?
Ma mère pense, et je le pense aussi, que nous devrions cesser de nous voir, toi et moi, pendant un certain temps. Si tu m'aimes vraiment, le désir de me revoir te donnera le coup de fouet dont tu as besoin.
Mais combien de temps?
Tu pourras me revoir quand tu auras trouvé une situation. Une situation stable.
Eh bien, adieu.
Mais Hans... Hans!
Non, tu fais bien de me rappeler. J'allais oublier le ticket de consigne que tu as mis dans ton sac, je crois.
Attends. Tiens, voilà.
Merci.
Mais Hans... Je voudrais te dire...
Non, il me semble que tu as tout dit.
Hans prit l'ascenseur, descendit dans le hall, mais ne se dirigea pas du côté de la consigne. Il demanda à la réception une enveloppe et un timbre. Il mit le ticket de consigne dans l'enveloppe, ferma cette enveloppe et écrivit dessus « Monsieur Hans Ashwell, poste restante, bureau 93, New York ». D'un pas décidé, il se dirigea vers la sortie. Hans Ashwell venait de perdre celle qu'il aimait, mais il avait trouvé une solution provisoire concernant ce porte-document dont il cherchait à se débarrasser depuis le début de l'après-midi. Et surtout, il pensait avoir découvert le moyen de s'enrichir rapidement et, par voie de conséquence, de reconquérir l'estime d'Audrey. Hans Ashwell venait de se lancer dans un jeu où il est dangereux de prendre des décisions sous l'emprise d'émotions sentimentales trop violentes. Hans Ashwell s'engagea dans la 61e rue et sonna à la porte du consulat soviétique, où, malgré l'heure tardive, ils furent reçus par le consul en personne.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Monsieur, si vous préférez garder l'anonymat, c'est votre affaire. Vous avez dit au portier que vous veniez à propos d'un porte-document trouvé dans un taxi.
Oui, c'est ça, monsieur.
Excusez-moi. Un instant, un simple coup de téléphone à donner.
Je vous en prie, monsieur.
Allô? Monsieur Simon? Je demande Hudson 8-73-74. Ah, et vous êtes le 8-73-75. Excusez-moi. Cela n'a pas d'importance. Je rappellerai plus tard.
Oui.
En tout cas, monsieur, je vous remercie de la promptitude que vous avez mise à nous rapporter ce porte-document. Ce n'était pas une perte très importante, d'ailleurs, mais enfin... Nous n'oublierons pas de vous dédommager pour votre dérangement.
Спасибо большое. Oui, non, je lis très bien le russe et je lis aussi les journaux, alors n'essayez pas de me faire croire que ces documents ne sont pas très importants.
Et même en l'admettant, ce porte-document nous appartient. Vous l'avez trouvé, si vous le conservez, vous êtes un voleur.
Mais non, vous fatiguez pas, je suis venu vous proposer...
Combien ?
300 000 dollars.
Vous êtes gourmand.
Ben, c'est pas cher, parce que j'ai...
Les documents ne valent plus rien depuis que vous en avez pris connaissance. Vous avez eu le temps d'en faire des photocopies que vous vendrez ensuite aux Américains.
Non, ben, pour qui me prenez-vous ?
Pour un petit maître chanteur.
Ah, ben, vous vous trompez, moi. Je sais que vous arriveriez toujours à me repincer si je vous arnaquais.
Soyez-en persuadé. Nous avons des amis dans tous les pays du monde, sans exception. Ceci étant posé, je suis disposé à traiter avec vous.
Ah bon ?
100 000. Pas un cent de plus.
100 000 dollars ?
Notre dernier prix.
Ben oui, oui, ça va, oui.
Amenez-vous demain matin à partir de 10 heures avec le porte-documents et nous vous remettrons 100 000 dollars en échange.
Et vous me prenez pour un imbécile ?
Où est ce porte-documents ?
Dans une consigne, quelque part à New York, et j'ai expédié le bulletin de consigne à mon nom, poste restante. Je suis ici sans papier d'identité, et ma fiancée, qui est au courant de cette affaire, doit prévenir immédiatement le FBI si je ne suis pas rentré ce soir, à 10 heures.
Après tout, vous n'êtes peut-être pas si bête que vous en avez l'air. Je suppose que vous avez un plan pour l'échange proprement dit.
Oui, oui, monsieur, oui.
Vous écoute.
Eh bien, dites donc... Pour l'instant, notre apprenti a l'air de ne pas s'en sortir trop mal.
Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas remarqué certaines anomalies qui auraient dû le mettre sur ses gardes.
Sûr. Mais que voulez-vous, si les amateurs jouent aussi bien que les professionnels, moi je trouverais ça tout à fait immoral.
Je ne vous le fais pas dire. En sortant de la 61e rue, Hans Ashwell fit plusieurs fois le tour du pâté de maison pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Et il crut ne pas l'être et rentra chez lui. Mais quelques heures plus tard, la fenêtre de la salle de bain était doucement soulevée. Oui, un homme s'était servi de l'escalier d'incendie pour entrer dans l'appartement. Notre ami Hans eut la désagréable surprise d'être réveillé dans son premier sommeil et d'une manière assez brutale, le canon d'un revolver sous le nez.
Bouge pas. Si tu es bien gentil, on ne te fera pas de mal. Lève-toi. Assieds-toi là. Les mains derrière le dos. Excuse-moi, je n'ai pas du tout envie que tu ameutes les voisins. Tu comprends ? 100 000 dollars, même pour nous, c'est une somme. Alors si on pouvait s'arranger autrement...
Ligoté et bâillonné, Hans assista à la fouille méthodique de son appartement. Oh, Max devait avoir l'habitude de telles opérations car il travaillait très vite. Mais l'appartement était minuscule et pourtant, l'opération dura plus de 2 heures.
Puisqu'il n'y a pas moyen d'économiser ces 100 000 dollars, on fera comme tu as dit. Rendez-vous demain matin à 10 heures. Hôtel Waldorf Astoria, chambre 750. Je serai seul. Je ne serai pas armé et j'aurai le fric. Je vais te détacher. Je pense que tu n'as aucun intérêt à appeler la police à ton secours. Salut, mon petit vieux. À demain, 10 heures.
Et c'est à ce moment que Hans Ashwell eut l'idée d'écrire et de poster, malgré l'heure tardive, la lettre qui allait me permettre de faire la connaissance de la toute charmante Audrey et aussi de mettre un point final à cette affaire.
Tenez, monsieur, voici la lettre.
Merci. Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire et, je le crains, dangereux. Si au reçu de cette lettre, je ne t'ai pas téléphoné... Préviens ton parrain.
Mon parrain est le général Rockblood.
Ah, parfaitement, oui. Préviens ton parrain et dis-lui que les Russes me poursuivent parce qu'ils croient que j'ai pris connaissance d'un dossier très secret. Quand avez-vous reçu cette lettre ?
Hier matin.
Oh, ça fait déjà beaucoup de temps perdu. Quand avez-vous vu Hans pour la dernière fois ?
Avant-hier, à un cocktail au Waldorf Astoria.
Oui.
Il est parti avant moi.
Ah.
Quand je suis sortie à mon tour, je suis allée à la consigne de l'hôtel où j'avais déposé des paquets... Et je me suis aperçue que je m'étais trompée de bulletin de consigne. L'employé m'a remis un porte-document appartenant à Hans.
Et où est ce porte-document ?
Mais le voici.
Vous permettez. Ah, je crois mieux comprendre déjà ce que votre ami Hans a voulu dire dans sa lettre. Mademoiselle, je crois qu'il était grand temps que j'arrive. Lui entre leurs mains et ce porte-document ici, nous allons avoir très bientôt de la visite. Et il valait mieux que je sois à vos côtés pour recevoir les visiteurs.
Vous croyez ?
Nous n'avons pas attendu très longtemps et je le regrette car Audrey était tout à fait charmante. Et puis j'avais à me livrer à quelques travaux photographiques absolument indispensables.
Restez ici, je vais ouvrir.
Voilà,
Ivana. Bien sage maintenant, hein.
Mais vous êtes fou?
Je ne crois pas.
Complètement fou. Je venais voir mademoiselle Audrey Rogers.
De la part de Hans Hashwell.
Oui.
Vous voyez bien que je ne suis pas fou.
Mademoiselle Audrey devait me remettre un porte-document.
Que voici.
Ah, alors?
Alors, il se trouve que ce porte-document ne vous appartient pas, mon vieux. Il sera restitué à son légitime propriétaire, un diplomate soviétique.
Mais c'est précisément le consulat.
Ah là, là là, vous fatiguez pas, mon vieux. À qui ferez-vous croire que le consulat soviétique emploie comme garçon de course un photographe new-yorkais? S'il faut en croire vos papiers, vous êtes bien photographe.
Oui.
Et tenez, je parie que je téléphone au consulat et que là-bas, personne, mais alors absolument personne, ne vous connaît.
Oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Ce n'est pas au consulat que je téléphone, mais au FBI.
Max, le petit photographe, colonel de l'armée rouge, a connu les prisons américaines. Quant à Hans, l'apprenti espion, la police découvrait son corps quelques jours plus tard dans l'Hudson. Crime inexplicable. Et pour la police, encore un dossier à classer.
À 5h dans 70 ans d'Europe 1, nous nous replongeons dans l'univers des feuilletons radiophoniques du début des années 60, période durant laquelle ces séries pullulaient sur l'antenne de notre station. Nous avons écouté Le Siffleur, OSS 117, mais il n'y a pas que des récits policiers ou d'espionnage. Hein. En 1962, le journaliste et romancier Claude Dufresne a produit Lettres d'amour, diffusée chaque jour à 15h30. Lettres d'amour, des voix célèbres lisent des lettres d'amour, non moins célèbres. Exemple avec le cinéaste Roger Vadim lisant une lettre d'amour de Casanova.
Personnage de légende ou simple amateur de plaisir, qui est Casanova? Entre la vérité et le merveilleux, la frontière est bien mince et la tentation de la franchir bien souvent offerte. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans la gloire de Casanova, c'est qu'à l'inverse des héros de l'histoire, ce n'est pas en faisant la guerre, ni en composant de la musique ou bien en écrivant des vers qu'il conquit son immortalité, mais en consacrant sa vie à la plus noble conquête de l'homme, à la femme. Pour Casanova, le champ d'honneur, c'est une alcôve. La guerre qu'il mène, c'est une guerre en dentelle. La poudre dont il use, c'est la flèche de Cupidon. La victoire, c'est l'amour. Mais sous l'enveloppe du héros fabuleux dont les exploits évoquent parfois les travaux d'Hercule, il y a un homme, et nous ne saurions mieux le décrire qu'en lui laissant la parole. En 1797, dans un village de Bohême, un vieillard, sentant sa fin prochaine, éprouve la nécessité naturelle de faire le bilan d'une existence à la fois passionnée et passionnante.
Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j'ai fait de bon ou de mauvais dans toute ma vie, je suis sûr d'avoir mérité ou démérité et que par conséquent, je dois me croire libre. La doctrine des stoïciens et de toute autre secte sur la force du destin est une chimère de l'imagination qui tient à l'athéisme. Je suis non seulement monothéiste, mais chrétien fortifié par la philosophie qui n'a jamais rien gâté. Je crois à l'existence d'un Dieu immatériel créateur et maître de toutes les formes. Et ce qui me prouve que j'en ai jamais douté, c'est que j'ai toujours compté sur sa providence, recourant à lui par le moyen de la prière dans toutes mes détresses, et me trouvant toujours exaucé. Malgré le fond de l'excellente morale, fruit nécessaire des divins principes enracinés dans mon cœur, je fus toute ma vie la victime de mes sens. Je ne suis plus à m'égarer et j'ai continuellement vécu dans l'erreur, n'ayant d'autre consolation que celle de savoir que j'y étais. Par cette raison, j'espère, cher lecteur, que bien loin de trouver dans mon histoire le caractère de l'impudente jactance, vous y trouverez celui qui convient à une confession générale, quoique dans le style de mes narrations, vous ne me trouverez ni l'air d'un pénitent, ni la contrainte de quelqu'un qui rougit, rendant compte de ses fredaines. Ce sont des folies de jeunesse. Vous verrez que j'en ris, et si vous êtes bon, vous en rirez avec moi.
Casanova, souriant à ses souvenirs, voit tourner devant lui le manège des charmants fantômes qui dansent au bal de son passé.
Me rappelant les plaisirs que j'eus, je me les renouvelle et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Membre de l'univers, je parle à l'air et je me figure de rendre compte de ma gestion, comme un maître d'hôtel le rend à son seigneur avant de disparaître. Pour ce qui regarde mon avenir, je n'ai jamais voulu m'en inquiéter en qualité de philosophe, car je n'en sais rien. Et en qualité de chrétien, la foi doit croire sans raisonner. Et la plus pure garde un profond silence. Cultiver les plaisirs de mes sens fut, dans toute ma vie, ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus importante. Me sentant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé, et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne table avec transport, et passionnément tous les objets faits pour exciter la curiosité.
Alors les hivers tout doucement s'effacent. Le vieillard, dans son miroir, aperçoit le reflet d'un séduisant jeune homme et sur son front, il sent à nouveau la brise de la victoire. Nous sommes en 1745 à Venise, Casanova a 20 ans. Et son habit d'ecclésiastique ne le gêne pas trop pour tomber amoureux à chaque fois que sa gondole croise celle d'une belle inconnue. Pour l'heure, elles sont trois qui mettent son cœur au supplice, trois sœurs. Mais c'est l'aînée que, prudemment, Casanova a choisie.
Angela, faut-il donc que les feux de l'enfer dévorent mon âme, depuis ce jour maudit où de votre éventail ont jailli les lumières de vos yeux? Ce matin, je suis venu tout exprès entendre la messe à Santa Sofia, dont je déteste pourtant le curé, pour la seule raison que je savais vous y trouver. J'attends donc avec émotion, plongeant le nez dans mon livre de messe, fort dévotement, mais tous les sens en alarme, guettant l'approche délicieuse de votre parfum. Vous arrivez, escorté comme toujours de votre ridicule tante, vous passez près de moi, vous me frôlez, je crois défaillir en sentant votre souffle sur mon cou. J'attends de vos yeux le baiser tendre et chaud, ma patience s'apprête à recueillir ses fruits. Mais que vois-je ? Vous vous éloignez comme si je n'étais rien, et comme je m'enhardis jusqu'à vous saluer, vous laissez tomber de vos lèvres pourpres. « Bonjour, mon cher abbé, vous êtes bien matin. » Puis vous voici parti à rire de je ne sais quelle plaisanterie que vous place madame votre tante. Ah, je ferais mieux d'extirper de mon cœur cet amour que vous y avez allumé. Cet amour qui me fait peur et qui me damnera. Que dirait monseigneur le patriarche de Venise s'il m'entendait ainsi évoquer le diable à propos d'une fille, lui qui... en me délivrant les ordres mineurs, s'est réjoui de voir un jeune homme choisir le chemin de la vertu.
Tout ce que vous venez de me dire me prouve que vous m'aimez beaucoup. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez en être si alarmé, tandis que votre amour m'a fait un plaisir infini. Vous voulez me bannir de votre présence parce que votre amour vous fait peur? Mais que feriez-vous donc si vous me haïssiez? Suis-je coupable de vous avoir plu? Et si l'amour que je vous ai inspiré est un crime, Je vous assure que je n'ai pas eu l'intention d'en vouloir commettre un. Et dès lors, vous ne pouvez en conscience m'en punir. Je ne puis vous taire cependant que je suis bien aise que vous m'aimiez. Quant au risque que l'on court lorsque l'on aime et que je connais très bien, nous sommes les maîtres à les braver. Je m'étonne que, bien qu'ignorante, cela ne me paraisse pas difficile, tandis que vous, qui êtes si savant, à ce que chacun dit, vous en paraissez si effrayé. Ce qui me surprend, c'est que l'amour n'étant pas une maladie ait pu vous rendre malade, et que l'effet qu'il fait sur moi soit tout le contraire. Serait-il possible que je me trompasse et que ce que je sens pour vous fut autre chose que l'amour? Vous m'avez vu si gaie en arrivant ce matin, c'est parce que j'ai rêvé toute la nuit. Mais cela ne m'a point empêché de dormir, seulement je me suis éveillée 5 ou 6 fois pour m'assurer si mon rêve était véritable, car je rêvais que j'étais auprès de vous. Et quand je voyais que ce n'était pas, je me rendormais bien vite pour attraper mon rêve, et j'y réussissais. Après cela, n'avais-je pas raison ce matin d'être gaie? Mon cher abbé, si l'amour est un tourment pour vous, j'en suis fâchée. Mais serait-il possible que vous fussiez né pour ne pas aimer? Si pour guérir, cependant, vous avez besoin de ne plus aimer, faites tout ce que vous pourrez, car je vous aime mieux vivant sans amour que mort de trop en avoir. Voyez seulement si vous pouvez trouver un autre expédient, car celui que vous m'avez proposé m'afflige.
La soutane, vous le voyez, n'empêche pas Casanova de se faire les griffes. Mais ses amours d'adolescence ne sont, vous le verrez dès demain, que des hors-d'œuvre pour un jeune homme qui a tant d'appétit.
70 ans d'Europe 1. Julien Pichenet.
70 ans d'Europe 1, c'est toutes les nuits de 4h à 5h et à tout moment en podcast sur le site et l'appli Europe 1, catégorie 70 ans d'Europe 1. Tous les documents que vous entendez dans cette émission, toutes les nuits entre 4h et 5h, sont à retrouver en podcast. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Demain, on va pédaler. Nous partirons sur les routes du Tour de France. Et toute l'équipe d'Europe 1, bonjour, est là. Déjà, je leur passe la main. Bonjour à vous, bonjour Thomas Schnell.
Bonjour Julien, très bonne nuit à vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va essayer de vous réveiller, de vous accompagner en la nuit avec autant de douceur que ce qu'on vient d'entendre. Trina, c'était très joli.
Très agréable.
Cette voix venue d'outre-tombe presque.
Eh oui, ça réveille en douceur. Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour Trina, ravi d'être avec vous, ravi de commencer cette semaine ensemble. Vous le savez, de 5h à 7h, tous les jours, votre promesse dans Europe 1 Bonjour. On prend le café ensemble. On vous donne les dernières informations. On vous raconte les meilleures histoires composées par toutes les équipes d'Europe 1. Nous sommes le lundi 16 juin. Il est 4h57. Trina, aujourd'hui, la tendance météo?
Eh bien, c'est un lundi plutôt calme qui s'annonce avec le retour du soleil sur une bonne partie du pays et des températures qui remontent.
Voilà, la météo toutes les demi-heures avec Trina McDean. Bienvenue à tous au sommaire de l'actualité en ce lundi matin. C'est cette escalade meurtrière au Moyen-Orient. Les frappes d'Israël et de l'Iran se sont poursuivies toute la journée d'hier. Le nombre de morts grimpe des deux côtés. Plus de 200 morts en Iran, plus de 10 en Israël. L'engrenage pourrait même impliquer les alliés des deux puissances régionales. On fera le point avec les dernières informations dans tous les journaux, mais également avec notre invitée à 5h40, la députée écologiste des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaï. Ce conflit sera bien sûr au cœur du G7 qui s'ouvre au Canada. Les dirigeants font route vers les Rocheuses canadiennes pour passer 2 jours de réunion à Kananaskis. L'occasion d'aplanir les différends et de prévenir une éventuelle offensive américaine. Utiliser un traceur GPS pour son vélo, sa moto, sa voiture, ses bagages et même ses animaux, c'est la spécialité d'Invoxia. Le spécialiste français des objets connectés viendra nous raconter cette passion très française à 5h10. Et puis, doit-on oublier le passé pour se donner un avenir? Ça, c'est la question à laquelle j'avais planché lorsque je passais mon bac. Alors, en solidarité ce matin, Europe 1, eh bien, souhaite un bon courage aux élèves de terminale qui passe l'épreuve de philosophie ce matin. Et un bon courage peut-être pour la nuit qui a été courte. C'était un jour particulier pour vous, Trina, le bac de philo.
Oh oui, j'étais extrêmement stressée. En plus, la philo, c'était vraiment pas mon fort.
Bon, ben voilà. Bon courage à tous. Très bon réveil à tous. Ce sera d'ailleurs juste après l'histoire de dingue. Votre histoire, Trina McDean.
On va parler ce matin d'un village de l'Oise perturbé par un mystérieux individu qui sème la panique d'une manière très particulière.
Voilà. Rendez-vous juste après le journal. Mais tout d'abord, la météo complète. Trina, retour au calme aujourd'hui.
Oui, après un week-end orageux, le temps s'améliore ce lundi et le soleil va dominer sur une grande partie du pays. Alors ce matin, le ciel sera encore chargé. chargée avec des passages nuageux portés par des vents d'ouest sur la pointe bretonne et sur le Cotentin. Il y aura un peu d'humidité au cours de la matinée, mais pas de précipitations prévues. Ailleurs, le soleil sera largement présent, notamment dans le sud, mais attention au Mistral et à la Tramontane.